Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International dans notre studio aujourd'hui du Monde. Et surtout, eh bien, nous en sommes là, les jours d'après, le troisième jour d'après. Et les Parisiens toujours sur leur petit nuage de champion d'Europe. Quel futur pour cette équipe au système de jeu impressionnant, si abouti sous la houlette de Luis Enrique. Le Mondial des clubs sera-t-il le premier test, ou plutôt serait-ce la saison prochaine européenne l'objectif? On va essayer de se projeter sur ces lendemains qui chantent, mais pas tout de suite, bien sûr, ceux qui déchantent. Celui qui ne déchante absolument pas et qui chante sûrement encore dans sa tête, c'est notre invité du jour, Abdel Marzouk. Bonjour.
Bonjour Annie.
Alors, très heureuse de vous recevoir de ce côté du micro, parce que d'habitude vous étiez de l'autre côté, vous avez été réalisateur de Radio Foot durant quelques années, mais vous êtes surtout ici de ce côté parce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. N'est-ce pas?
Exactement. Un dur.
Abonné fidèle, même dans les pires tempêtes, sur votre t-shirt, il est écrit « Parisien de père en fils » et vous nous expliquerez pourquoi. En tout cas, vous allez surtout nous raconter votre équipée avec vos copains du côté de Munich pour aller décrocher l'étoile, bien sûr. Les sélections de retour pour la trêve internationale et le tournoi final de la Ligue des Nations, deux demi-finales. Et d'abord Allemagne-Portugal demain soir, deux nations en mal de résultats, des Allemands rajeunis par Nagelsmann, mais surtout des Portugais auréolés de leur champion d'Europe. Et toujours quand même avec CR7 pour guide, Marco Martins, notre confrère portugais, nous rejoindra tout à l'heure. Mais invité dans ce studio, alors il n'est pas du tout parisien, il est même rémois parfois, il a été l'orienté nancéen durant le week-end.
Il y en a pas mal.
Bonjour Benjamin Mokanjou, mais lui aussi il a une étoile. Lui aussi il a une étoile,
l'ancien. La plus belle, hein. C'est la plus belle, ça.
N'est-ce pas?
Ouais. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Benjamin Mokanjou, capitaine, n'est-ce pas, en 2017 de ce Cameroun vainqueur. Naïm Moniol, bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Vous êtes amiennois.
Oui, hein, on s'est maintenu, donc ça va.
Bon, puis alors, un Parisien quand même, au moins d'adoption. Oui. Enfin, c'est le nom de son journal, c'est ça qui importe. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon, Parisien.
Longtemps qu'on attendait ça, je crois.
Ouais, hein, je crois. On en a suffisamment parlé, on l'a suffisamment épilogué, commenté, attendu. David Finzel, qui est parisien, de naissance en tout cas. Et Laurent Salerno, qui est derrière la vitre, qui est un maestro. Il est au-dessus de tout ça. Radio Foot, c'est parti.
Bradley Barcola, entrée de surface de réparation qui va servir maintenant Céline Mayoulou pour un de ses premiers ballons. Bradley Barcola désormais. Barcola, Mayoulou, la frappe. Oh, goal, 5-0. Goal. Et c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est vainqueur de la Ligue des Champions, la première de son histoire, sur le score de 5-0. 5-0 pour Paris Saint-Germain. C'est beau. C'est beau. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre. 90 minutes de bonheur. Merci Paris. Merci.
On les a entendus, les supporters, pendant ce match. Et rien de tel pour se remettre dans l'ambiance, pour rendre hommage aussi à tous ceux qui, depuis des années, ont souffert et y ont cru. C'est pour ça que vous avez entendu en ouverture Bruno Salomon, qu'on a souvent entendu dans cette émission, notre cher confrère de Radio France, qui anime depuis des années Tribune PSG, mais surtout un supporter assumé et qui suit cette équipe depuis 17 ans. C'est Gaul, hein, reste dans l'histoire, parce que c'est sa marque à Bruno Salomon. Exactement. Il les a suivis et partout. Je me souviens quand le PSG jouait à l'époque la Ligue. Alors, ce n'était pas conférence, mais.
La Ligue Europa.
Oui, mais alors Europa au fin fond de la Biélorussie ou de je ne sais où.
Il Ferdinand au Luxembourg.
On a eu des moins 25.
Oui, voilà, exactement. Oui, oui. Plein de neige, ils nous racontaient.
On a les vêtements contre le froid chez nous.
Ah, ben, il vaut mieux. Et puis, eh bien, on l'entend, la clameur dans le stade. Vous y participiez, évidemment,
toujours,
Abdel.
Toujours. chaque déplacement que j'ai pu faire cette saison.
Vous chantez. Et ben, nous aussi, on voulait rendre hommage à tous ces supporters, et notamment les anonymes. Et vous, Abdel, eh bien, vous êtes un super fidèle et vous n'avez surtout pas manqué le rendez-vous de Munich. Vous êtes monté dans un bus.
On connaît bien le monde.
C'était incroyable. C'est un bus que j'ai organisé avec des amis. En fait, j'étais à l'initiative de ce déplacement entre les deux demi-finales contre Arsenal. Donc l'idée a commencé à germer de faire ce déplacement avec eux.
Et ça, c'est la musique d'ambiance dans le bus.
Qui tournait dans le bus à plusieurs reprises. Ouais. Hein,
pour vous réveiller, pour vous donner
c'est
de l'allant.
Exactement.
Et vous êtes parti de Paris de nuit, en fait.
C'est ça, on a eu
rendez-vous. C'est vous qui avez coordonné, vous avez loué un bus et vous l'avez rempli.
C'est ça, exactement, aussi simple. Donc on a galéré un peu au début parce qu'il y a eu les différentes phases de vente de billets du PSG. Donc on pensait que tout le monde allait avoir sa place facilement, mais on s'est retrouvé à 20. On s'est demandé est-ce qu'on maintient ou pas le bus.
Et vous avez eu du mal, même vous, abonné depuis plus de 20 ans, vous avez eu du mal.
Moi, ça s'est joué à quelques secondes. Quoi. Ma place, je devais faire partir de la vague 1, mais j'ai pas compris. Non. Mais j'ai eu ma place, c'est le principal, disons, avec mon frère. Donc voilà, j'ai eu deux places, j'ai pu emmener mon frère. Et finalement, organiser ce bus qui, petit à petit, s'est rempli, disons, 2-3 jours avant le match, des gens ont réussi à débloquer des places ou via le club, via des contacts, etc. Et puis, on est parti à 46 personnes à l'aller. Au retour, on était plein. Il n'y avait pas une seule place. Voilà, je peux me dire, j'ai réussi à organiser un bus pour aller chercher cette Ligue des Champions et revenir à Paris avec. Quoi.
Et du coup, pardon Annie, non, mais combien d'heures de bus aller-retour ?
À l'aller, bon, 14 heures. On a fait beaucoup de pauses. Mais au retour, on a demandé au chauffeur de tracer car on voulait être à Paris à temps pour ceux qui voulaient aller sur les champs pour les célébrations au Parc des Princes le soir. Oui.
Vous êtes reparti combien de temps après la fin du match ?
À 1h du matin, le bus est parti.
Ah oui.
Donc quasiment 1h, 1h et demie. Ça, c'était le temps de sortir du stade et de rejoindre l'endroit où étaient parqués les bus.
Un petit bout de la pelouse de
J'aurais aimé, mais j'étais un peu trop. J'étais pas dans la bonne tribune pour ça.
Alors racontez-nous, Abdel, comment vous avez vécu ce match ? Parce que j'imagine que même si à Paris, on sentait qu'il y avait une effervescence et qu'on avait presque gagné avant de jouer le match,
oui.
c'était même un peu c'était
gênant,
même angoissant,
oui.
Gênant ou angoissant en oui. Se disant mais il y a quand même 90 minutes et puis comment vous avez vécu cette manita?
Disons que c'était assez exceptionnel, assez déconcertant, il n'y a pas vraiment de mots ou d'adjectifs. Donc nous, on est arrivé au stade, avec le recul, c'est facile à dire, mais j'étais confiant. Donc je n'avais pas peur avant le match. Mais à 1-0, bon, on était très heureux. À 2-0, on célèbre. À 3-0, on pleure. À 4-0, je regarde mon frère et mes amis à côté de moi. Oui, aussi. Et à 4-0, en fait, je suis à gare. Je n'arrive plus à célébrer, à réagir. Je regarde mes amis, mon frère. On se demande qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait. Est-ce que c'est réel ou pas ? Alors évidemment, oui. Mais dans notre tête, c'est...
Et alors 5-0 ?
Et le 5-0, alors là, c'est... Je regarde mes amis, pareil, on se dit, bon, bah, en fait, oui, c'est vrai, c'est bon. Là, on gagne, en fait. On remporte enfin ce trophée qu'on convoite depuis longtemps.
Un détail qui a été important et qu'on a tous vu, et je pense que dans la tête des joueurs, vous avez dû le voir, Benjamin, mais c'est quand il y a 0 seconde d'arrêt de jeu. À 90 minutes.
Oui. Il n'a pas tenu compte des changements. Il n'a pas tenu
5 changements.
Je pense qu'il a ici.
Il fallait surtout arrêter le calme.
Voilà. L'arbitre est humain.
Il ne fallait pas le prolonger parce que je pense que même si on rajoutait 5 minutes, 6 minutes, ça aurait changé à 5-0.
Peut-être plus de buts encore.
Oui. Bah, pour une équipe, oui, plus de buts pour le PSG. Oui,
ça pour le PSG. Oui,
peut-être total, mais une équipe qui a tiré une fois au but. Honnêtement, on se demandait comment l'Inter allait réussir à marquer. Donc c'était. Bah c'est bien, c'est vrai.
L'Inter n'a pas protesté, ils n'ont pas dit dans les 5 minutes de temps
additionnel, on aurait fait 5-5. Avant. Si on pouvait arrêter le match avant, au bout de 5-0, si on pouvait l'arrêter.
Je pense qu'à Serbie, à 3-0, il aurait voulu que ça s'arrête. Oui.
Et Abdel, qu'est-ce qu'on se dit quand on est supporter ? Alors, vous êtes arrivé à Munich tôt le matin, du coup, vous avez pu vous balader, parce que le stade n'est pas vraiment dans la ville en plus.
Non, pas du tout, il est assez éloigné.
Oui, oui.
Donc on est arrivé aux alentours de midi, 13h, et puis bon, on a profité un peu de l'ambiance, des fan zones, de cette ville, et puis la météo était au rendez-vous. Vraiment, tout était réuni pour passer une belle journée et un bon match. Du coup, après, on est allé au stade très tôt, par contre, comme on voulait être bien placé. Donc je suis arrivé au stade, il devait être 17h30 quand même.
Comme moi.
Et puis,
c'était le match d'une vie, je
ne
pouvais pas me permettre
comme
un déplacement classique, comme j'étais à Liverpool cette saison, où je peux arriver au stade à 20h ou même 20h15. Une finale, c'est le match d'une vie. Peut-être qu'il n'y en aura pas une deuxième. Du coup, on s'est dit 18h au plus tard, on est à l'intérieur. Ouais.
Et Abdel, il y a des mots d'ordre entre les supporters de chanter, ou alors on sait qu'il y en a un meneur et qu'on suit les chants et tout, parce qu'on les a toujours beaucoup entendus, les Parisiens dans les stades. On se souvient contre Arsenal l'autre fois au match aller et tout ça. Est-ce qu'il y a une technique ?
Bah, il y a, comme on dit, il y a ce qu'on appelle un capot qui lui donne le là. Il est équipé d'un mégaphone et c'est lui qui va lancer les chants pendant le match. Ouais.
Là, vous étiez 18 000.
Il était assez bruyant, on va dire, et puis ça suivait et tout le monde, les différents chants qu'il a lancés, tout le public parisien ou tout le parquage parisien a suivi. Ouais.
Il faut le dire, Annie, ils ont gagné la bataille des tribunes avant que le match commence. Hein. Moi, j'ai donc, comme je suis arrivé 3 heures avant le coup d'envoi, j'ai eu le temps de regarder. Alors, il y avait un problème entre l'Inter Milan et ses supporters parce qu'il y a des histoires locales avec un virage à Milan, donc il y avait une protestation. Mais bon, j'imagine que c'est les 18 000 Italiens qui avaient fait le déplacement, ils étaient quand même là pour soutenir leur équipe.
Sans doute, certains venaient de loin.
Jusqu'au but d'Hakimi, c'était là aussi une démonstration des Parisiens dans les chants, dans la ferveur. On entendait de manière sporadique les Italiens, il fallait qu'ils voient une image, un bus arriver, mais sinon ils ne chantaient pas du tout. Ils applaudissaient, leur équipe arrivait sur le terrain, ils applaudissaient. Les Parisiens, ils n'ont pas cessé pendant 3 heures et on ne s'entendait pas. Moi j'étais d'abord très, très près de la pelouse, on ne s'entendait pas. Et après, je suis allé dans mon petit coin de la tribune de presse très haut, où là on entend mieux, mais c'est, ils ont complètement gagné la bataille des tribunes.
Puis alors, vous aviez, les supporters avaient préparé un tifo en ouverture de match, et ça, c'est pas toujours quand même
c'est
d'arriver
pas
avec
un final de Ligue des Champions, effectivement. Voilà, et surtout finale. Que l'UEFA, ils sont assez, les règles de l'UEFA sont assez restrictives sur tout ce qui est banderole, drapeau ou autre. Mais là, pour
messages
la finale,
politiques.
Les messages politiques,
il y en a eu aussi.
Il y en a eu aussi, oui, effectivement. Mais oui, là, les supporters qui ont préparé ça, oui, ont réussi à rentrer avec. Évidemment, il y avait l'accord de l'UEFA, je pense, pour rentrer avec ce genre de... Enfin, ou des tifos de cette taille. Et puis, il y a eu aussi le tifo pour Luis Enrique en fin de match, qui lui était assez... qui était assez top et très, très touchant. Oui,
qui était très personnel et très bien
sur
vu.
Sa fille décédée, Chana.
Oui, oui. Abdel, alors, parisien de père en fils, racontez-nous comment vous êtes devenu supporter du Paris Saint-Germain.
Bah c'est venu, le virus, c'est mon père qui me l'a transmis. En fait, lui, il est né en Égypte, il a toujours vécu là-bas. Il est allé voir les matchs d'Al Ahly en Égypte. Et quand il est arrivé en France...
Un des clubs les plus titrés d'Égypte.
Le plus titré africain.
Oui, oui, oui.
Et en France, donc...
Il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, lui aussi.
Il est arrivé à Paris et il avait besoin, entre guillemets, de continuer à voir du foot. Et du coup, c'était le Parc des Princes. Il m'emmenait avec lui à partir de 2 ou 3 ans, je crois, mon premier match. Et moi, j'ai pris mon premier abonnement après dans les années 2000. J'ai plus de 20 ans d'abonnement au PSG. Ouais. Donc, c'est comme ça que cette passion est... Quand j'y allais avec lui, je me suis dit un jour, je veux terminer dans les tribunes derrière le but avec les gens qui mettent l'ambiance. Et au final, petit à petit... Ça, c'est fait.
2000, c'est des mauvaises années parce que c'est un peu la fin de Canal+, l'actionnaire, et c'est le début de Colony Capital.
Effectivement.
Et ça, cette transition-là, c'est, on est un peu dans des mercato mous, ça passe pas grand-chose. Canal+, voulait plus mettre d'argent. Colony Capital est arrivé comme actionnaire, il n'avait pas beaucoup à mettre parce que déjà, c'est pas le sien. C'est un fonds de pension. Donc, il est là pour dépenser l'argent des autres. Et donc, il pensait que le foot, c'était sympa, mais il a vu que c'était quand même une entreprise
ça qui coûtait cher.
Bah oui. Donc, il a dit, ses actionnaires au-dessus de lui, ils ont dit, bah non, en fait, on met pas d'argent là-dedans. Donc, tu as commencé, Abdel, par les, entre guillemets...
Des années noires.
Voilà, des années de vache maigre.
C'est ça, on a mangé du pain noir pendant toutes ces...
Abdel, alors, dans toutes ces années, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de découragement? Et notamment, même avec les années KSI, quand ils arrivent. Et vous étiez dans le stade pour la remontada?
Vous étiez
à Barcelone.
J'ai fait le 6-1, j'étais à Barcelone et je suis rentré en bus. Je peux vous dire que là, je m'en souviendrai à vie aussi.
C'était dur.
Vraiment, c'était... Mais il y avait un silence de mort. Le retour de Barcelone à Paris,
aucun chant.
Rien du tout. Tout le monde dormait ou avait ses écouteurs sur les oreilles. Et il n'y a pas une personne qui a adressé la parole à l'autre.
Ouais, c'était dur.
On en a connu des déconvenus avec ce club, mais on finit toujours par y revenir, rester. Et puis, on a été récompensés là, samedi dernier. Enfin.
Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage de champion d'Europe?
Du tout. Je pense qu'il va me falloir du temps. Hein, encore.
Et pourquoi?
C'est tellement irréel ce qu'on a vécu. On attendait ce moment depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à expliquer. En fait. Il va me falloir du...
Non. Et du coup, en tant que supporter du PSG, vous avez un intérêt particulier pour la Coupe du Monde des clubs qui arrive? Vous vous en moquez un petit peu?
Alors, zéro.
C'est vrai?
Vraiment. Alors bon, si on peut ajouter une ligne à notre palmarès, je dirais pas non. Mais je vais la suivre de loin. Et puis en fait, ça surcharge le calendrier plus qu'autre chose. Ouais. C'est ça. Parce que là, les joueurs vont être cramés. Il y a ça, il y a la Super Coupe d'Europe... Ouais. J'ai entendu parler de la Coupe Intercontinentale aussi. Je ne sais pas quand. Et puis, il y a le Trophée des Champions avec Marseille qu'il va falloir caler, mais plutôt en décembre ou janvier, je crois.
Ouais. Oui. Bon, ça, ils n'arrivent pas à trouver une date, pour ce trophée.
Il n'y a pas de bus pour aller aux États-Unis. Quoi.
Non, là, c'est à l'avion.
Ah, tu peux le mettre sur un bateau.
Mais là, pour le match, je crois que c'est la Super Coupe d'Europe. J'ai déjà des amis qui ont pris leur billet d'avion pour l'Italie, aller à Venise. Et je crois que ça va se jouer à Udine.
C'est Udine. Oui, Udine le 13 août contre Tottenham. Ouais.
Mais là, tous les hôtels sont déjà pris parce que Tottenham s'est qualifié 10 jours avant nous. Il n'y a déjà plus rien. On a quand même regardé.
Puis en plus, les Italiens vont bien vous recevoir parce que après ce que vous avez mis à Milan.
Alors Abdel, pour terminer sur votre ressenti, dans ce déroulé, vous partez en bus, vous allez là-bas, vous gagnez, vous revenez avec le titre, vous êtes aussi au Parc des Princes,
vous êtes allé.
Est-ce que pour vous c'était le déroulé parfait, et notamment en terminant dans le Parc des Princes avec autour des joueurs?
Ça coulait de source, entre guillemets. C'était une suite logique des choses entre le départ en bus, la journée sur Munich,
ça aurait pu s'arrêter sur les Champs-Élysées.
Ça aurait pu. On est arrivé, je crois, dimanche aux alentours de 13h, mais j'ai passé mon tour pour les Champs-Élysées. Ça ne m'intéressait pas en vrai. Et puis, il y avait la fatigue. Et je me suis dit, non, on va garder le final pour le Parc des Princes. Et au final, c'était une belle fête. Donc, ça a bien clôturé.
L'image de ce qu'est devenu l'équipe, pas le club, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'argent, mais fête simple.
Alors, je mettrais un petit bémol sur DJ Snake, pour moi, qui a vampirisé un peu la...
Oui.
Ça aurait dû pour moi s'arrêter au concert qu'il a fait les 15 premières minutes, mais à la fin, j'ai l'impression de l'avoir vu lui plus que la coupe en elle-même ou certains joueurs.
Abdel, justement, une dernière question. Dans cette équipe des champions d'Europe, là, est-ce qu'il y en a un qui particulièrement a la faveur des supporters ou représente l'état d'esprit de cette...
Sur cette saison, je dirais Dembélé, oui. On en parle beaucoup autour de nous. Dembélé ou Marquinhos, on peut...
Les supporters, Annie, ils aiment beaucoup les buteurs.
Ah bon,
ils aiment beaucoup ceux qui marquent des buts.
Ouais, les actions de Jean Neves et de Désiré Doué sont aussi très à la hausse quand même.
Mais est-ce que c'est pas quand même Marquinhos, vous le citez, mais qui symbolise ce capitaine courage quand même? Parce que lui, depuis le temps qu'il était là, il en a essuyé autant que vous.
Il a tout goûté au PSG, Marquinhos, c'est vrai.
Mais il a été victime des changements de pied de direction. Mais ils ont fait longtemps beaucoup de bêtises quand même avec l'argent. Mmh. Et c'est comme depuis 2 ans qu'ils le dépensent de manière un peu plus intelligente. Hein. Mmh. Pas oublier que tout ça a coûté énormément d'argent.
Hein. 2 milliards, dit-on, d'investissement depuis sur 13 ans.
Mais ne serait-ce que au dernier mercato d'été de la saison dernière, c'est le club qui a le plus dépensé avec Neves.
Oui, et même en hiver.
C'est pas forcément le seul club qui dépense énormément d'argent pour aller gagner une Champions League. On avait avec City. Hein.
Bien sûr.
A énormément dépensé et à la fin ils ont été satisfaits.
Bon, ben justement, en tout cas, Abdel, donnez-nous votre avis, puisque on a évoqué prochaine compétition déjà, là, je sais pas. Ils sont où, les joueurs, là? Ils sont chez eux?
Ils ont gagné les sélections pour certains.
Les autres, ils s'entraînent déjà pour le Mondial des clubs?
Ça, je pense qu'ils vont avoir le droit.
Ça commence dans 2 semaines.
Sûrement, mais c'est dans 2 semaines, mi-juin, je crois.
Oui, ça commence le cas.
Ils sont tous en sélection, quand même.
La plupart,
oui. Ils s'entraînent, les Français, les Portugais.
En plus, ils manquait pas de match, donc en plus.
Ouais, voilà.
Justement, ce Paris Saint-Germain étoilé, on peut se dire, et maintenant, tout le monde a été donc impressionné. On parlait tout à l'heure des scores, je vous entendais, Naïm, et je les ai notés parce que je suis allée regarder. On sait que depuis 1962, je crois, il n'y avait pas eu 5 buts dans une finale, mais c'était un 5-3.
Il y a eu Benfica. Il y a eu un 4-0 en 94, Milan-Barça. C'était l'écart le plus important de la Ligue des Champions, en tout cas de cette formule.
Ouais. Et une fois où il y avait eu 5 buts.
Il y a eu un 7-3 qui date de Mathusalem, mais 5, c'était
exactement. En tout cas, la première, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de finale ces derniers temps où il y avait des 1-0.
C'était le score le plus fréquent.
Les 4 dernières, exactement. Et les 4 dernières, on peut citer PSG déjà, Bayern, il y avait eu Chelsea City, Real Liverpool et puis Inter City.
Il y a eu Real Dortmund aussi. Ça fait 1-0, 2-0.
Real Dortmund.
2-0.
2-0. 2-0, c'était pas 1-0, mais c'était effectivement...
19 fois, il y a eu 1-0 en finale.
Oui, voilà. Et la toute première édition, c'était, on a envie de les citer, Real Madrid, Stade de Reims.
Ah ouais.
Et là, ça avait été un 4-3. Donc c'était... Est-ce que c'est ces tournures de beaucoup de buts, c'est ce que ça peut devenir? On se souvient des demi-finales. Bon, alors l'Inter avait été plus frais et plus guerrier.
Mais l'Inter n'avait été mené que 17 minutes dans cette compétition.
Ouais. Avec ses 13 buts marqués sur ses matchs aller-retour et 7 de l'Inter. Benjamin, est-ce que c'était exceptionnel? Qu'est-ce que vous en pensez de ce 5-0?
Exceptionnel, non. Après, je ne veux pas, réduire la performance
exceptionnel
du Paris Saint-Germain. Parce qu'en face,
dans les faits, mais...
oui, dans les faits, c'est exceptionnel. Mais quand on voit quand même ce que l'Inter a proposé en face...
Ou ne pas proposer.
Oui, oui, je pense même que c'est plus... l'Inter n'a rien proposé en face. Donc forcément, on disait tout à l'heure que ça aurait même pu être beaucoup plus que 5-0. Ça aurait pu être 6, 7, voire 8 même.
Il y a eu des ballons qui ont terminé sur la barre. Exactement. Barcola.
Donc quand on... Il y a encore une belle aussi.
Ouais, ils ont beaucoup manqué. Mais quand on voit ça, moi, je suis désolé. Ce que l'Inter nous a montré depuis le début de la saison, une équipe solidaire, une équipe solide, surtout sur le plan défensif, ce qui a fait sa force depuis aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle s'est écroulée. Quand elle a raté le coach au niveau du championnat, ou... Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que
défaite à Bologne, là.
Elle était leader du championnat, elle avait encore les cartes à main. Elle va à Bologne où elle ne gagne pas. Derrière, Naples passe devant. Mais quand même, quand on arrive en finale de Champions League, ils l'ont joué, je crois, il y a 2 ans. Où ils perdent en finale face à City.
En faisant un très bon match.
Ils reviennent en faisant un très très bon match. Ils reviennent là, ils ont la chance de la gagner. D'autant plus que dans l'effectif, je crois, il y en avait 8 ou 9 joueurs.
7 ou 8. Ouais.
7 joueurs qu'il avait déjà joué.
Il y en avait 3 qui avaient joué la finale de Ligue Europa de 2020. Hein.
Voilà, on n'a pas le droit de ne pas proposer grand-chose ou de rien proposer. Mais comme ils ont fait.
Comme quoi, il faut se méfier des semaines précédentes parce que l'entraîneur a été annoncé partant pour l'Arabie Saoudite.
Et il y va d'ailleurs. on vient de l'apprendre.
On vient de l'apprendre.
Oui, oui. Il y va.
Les supporters sont venus dans leur campus à eux protester contre le fait que leur tribune n'était pas adaptée à ce qu'ils voulaient. La perte du championnat sportif qui est arrivé après la perte de la Coupe d'Italie contre le rival intime l'AC Milan. Donc ça, bon, c'est des petits signaux. Nous, de loin, on se disait oui, mais bon, ça...
Oui, et puis quand ils ont perdu le championnat, là aussi, ils avaient les cartes en main à l'avant-dernier match.
Tout ça, nous, de France, on se disait oui, mais d'accord, mais ils ont quand même mis 7 buts à Barcelone, et puis c'est une finale, et puis ils en joueront pas 50 encore. Donc, et puis finalement, bah non, tous ces signaux-là, tous ces signaux faibles étaient vraiment très forts. Et ça les a, au premier but de
Hakimi,
ils se sont écroulés en fait.
On a vu leur visage d'ailleurs.
Si on n'est pas français et qu'on n'a pas la satisfaction de voir un club français gagner cette Ligue des Champions, on est déçu de la finale. Enfin, moi, en tout cas, au-delà du score, j'aurais aimé avoir une finale comme Liverpool-Milan, des buts, mais serré, un 3-0, tu passes à 3-3.
Rivalité.
Avoir un sac 3, quitte à avoir du danger pour le PSG, que tu as un peu peur, mais te dire 1-0.
Ce en plus,
parce que finalement, c'était l'équivalent d'un. Ça a un peu fait penser au PSG Marseille qu'on vit depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on nous vend un truc la semaine d'avant avec les buts de Boli et puis les interviews dans le méta de Dimeco de machin. Puis au final, au bout de 20 minutes, s'il y a 2-3-0, c'est réglé. Et tu as vu la même chose, sauf que là, tu as l'Inter Milan, qui est une finale de Ligue des Champions, que tu restes sur ce que tu as vu de Barcelone, qui est exceptionnel à plus d'un titre. C'est une immense déception. On est évidemment très heureux que le PSG l'ait gagné. Mais sur le scénario, on est quand même très déçus.
Abdel, vous auriez aimé, vous aussi, trembler plus pendant la finale ?
Non, j'aurais aimé trembler.
Le scénario me va très bien.
Il y a quand même des gens qui ont bien...
À 5-3, le bus, il revient aussi, c'est bien, Abdel.
Est-ce que c'est grâce à la tactique et à cette machine mise au point si bien par Luis Enrique, quand même ? Parce qu'il leur a peut-être
fort,
aussi
si
démonté le mental adverse.
Moi, je pense que c'est énorme, mais c'est la conjoncture de beaucoup de choses. D'abord, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Je pense que ce qu'il a réussi à faire de Dembélé a conditionné beaucoup de choses, à la fois dans sa tête à lui et dans le jeu, parce que le remettre dans l'axe, ça permet d'avoir des joueurs de côté plus définis, ça permet de faire rentrer Fabien Ruiz au milieu de terrain, de sortir Zaire Emery et d'avoir un petit peu plus de football et de créativité. Et puis après, c'est la manière dont il a concerné tout le monde. Zaire Emery, Doué joue un peu moins en première partie de saison. Bon, Kvaratskhelia, elle arrive dans un groupe qui est déjà établi. Fabien Ruiz, il arrive de l'Euro, il a un statut, c'est un des meilleurs joueurs espagnols, machin. Sa première partie de saison est quand même plus quelconque que ce qu'on attendait. Finalement, il l'a gardé dedans pour en faire le joueur majeur qu'il est devenu en deuxième partie de saison. Barcola, qui a été l'homme fort de la première partie de saison, qui est sorti plus ou moins de l'équipe, il est encore intégré dedans, il est encore dedans, il rentre, il fait une bonne entrée, sorti du but qu'il rate, il fait une très bonne entrée. Donc, Luis Enrique a conditionné beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il y a peut-être plus d'humilité, il y a peut-être... Je ne veux pas dire qu'il y a moins de stars, parce que prenez Hakimi, c'est le meilleur joueur du monde à son poste, c'est pas une star, mais il y a moins de people. Mm-hmm. Et je pense que c'est aussi ça, la vraie différence avec le PSG des dernières années.
Justement, c'est ça l'avenir de ce club. Et maintenant, quand on se pose la question, Dominique, ce côté moins bling-bling, parce qu'effectivement, il y a du talent, mais il y a moins de stars avec qui, qu'on suit
fois,
à la trace. Le côté people, effectivement.
Encore une fois, ça coûte de l'argent. Hein. Le PSG, c'est le plus gros mercato de la saison dernière. Hein. Tous les clubs en Europe, avec Neves, Doué, Safonov, tout ça, c'est eux qui ont le plus dépensé. Mais la différence pour moi avec Amiens, c'est que argent rime avec compétence désormais. C'est-à-dire qu'on dépense pour des bonnes raisons. Neves, c'est exactement le joueur que voulait Luis Enrique au milieu de terrain. Et ces joueurs-là, il les a fait progresser. Le Neves de début de saison, c'est comme le Désiré de début de saison. C'est pas les mêmes en août, quand on les voit au Havre. Ils gagnent 4-1, un match un peu poussi. Bon, on se dit c'est la première journée. Et puis la fin de saison, Désiré Doué, c'est l'homme de la finale. Je vous rappelle qu'il a 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Désiré. C'est quand même incroyable. À 20 ans.
Qui porte si bien son nom.
Ah oui, 20 ans, 2 buts, une passe décisive. Je sais plus les stats, que je sais pas, ça m'intéresse pas, mais je sais que c'est très rare, ça n'arrive quasiment jamais.
Mais ça rappelle un peu Kylian Mbappé dans sa belle année quand après il est champion du monde, parce que lui aussi en finale de Coupe du Monde et tout, très jeune, et tout de suite ça éclose.
Mais je trouve qu'en club à Monaco ou à Paris, Kylian n'a pas fait ça aussi jeune, n'a pas réussi à avoir un tel impact que celui qu'a aujourd'hui
Benjamin, celui qui s'est amélioré aussi durant la saison, c'est Ousmane Dembélé.
Oui, je pense que c'est...
Il a quand même changé de jeu et de statut, et voire de poste.
C'est toute la réussite de Luis Enrique, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui, on l'a critiqué, mais à juste titre, parce qu'il faisait énormément de différence sur son côté, il manquait d'efficacité, de lucidité. Il a repositionné dans l'axe. Déjà, il fait pas des courses de 30-40 mètres, il a moins de courses à faire. Et puis surtout, il est devenu efficace. On nous a souvent dit que Guardiola est parti chercher Haaland pour gagner la Champions League. Luis Enrique n'a pas eu besoin d'aller chercher un grand attaquant. Il a fabriqué. Mmh. Pour moi, c'est sa marque de fabrique.
Et il le connaissait bien, Ousmane. Il y avait peut-être aussi cet avantage. Il l'avait connu du temps de Barcelone.
Non, il n'a pas entraîné à Barcelone.
Non, il n'a pas entraîné.
Non, il l'a connu dans le club.
Il le regardait comme il regarde Barcelone toute la journée.
Mais surtout, c'est vrai qu'on peut mettre le fait que l'entraîneur fait énormément du boulot. Mais il y a aussi l'acceptation du joueur.
Benjamin, il y a eu des bisbilles entre
les deux. Oui, bien sûr, parce qu'on en a parlé, juste un parallèle, par rapport à Kylian Mbappé qui, au Real, on trouvait qu'il n'avait pas su s'adapter à ce poste-là qui était nouveau pour lui. Mais avec Dembélé, on sent tout de suite qu'il a accepté de jouer à ce poste-là. Parce qu'effectivement, quand on a joué toute sa carrière sur un côté et qu'on est repositionné dans l'axe, on touche moins de ballons.
Rappelle-toi qu'avant City, il n'est pas du déplacement à Arsenal parce qu'il est en retard à l'entraînement. Ouais. Si tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'il est remplaçant aussi contre le PSV ou contre Salzbourg juste avant. Il ne doit pas être titulaire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a quand même pris.
Parce qu'il a pris un rouge à Munich.
Qu'à un moment donné, il a quand même pris une cartouche par Luis Enrique qui l'a remis. Mais ce qu'il avait pris aussi à Barcelone, rappelle-toi certaines déclarations de Xavi.
Il a toujours besoin un peu de ça.
Même à Dortmund, il a toujours été un peu remis d'équerre.
Il est parti tellement jeune aussi de Rennes, on s'en souvient à 17 ans lui aussi, il se retrouve au BVB.
La finale, Annie, je peux vous dire que son match, on lui a mis 7,5, je pense qu'on s'est trompé. Pour moi, c'est 9.
C'est plus que ça.
Pour moi, c'est 9. Son match, il est extraordinaire. Les courses sur le Sommer pour empêcher la première relance de l'Inter Milan, donc de déstructurer le jeu, ça commence là. L'Inter n'a pas existé parce que Ousmane Dembélé a mis une pression constante sur les défenseurs centraux et sur le gardien, donc ils n'ont jamais pu avoir un temps de respiration.
On voyait.
Et puis après, il est quand même impliqué sur le deuxième but, passe décisive pour Désiré Doué. Il est impliqué sur le troisième but, la talonnade pour Vitinha. C'est lui qui lance Barashkelia pour le quatrième but. Donc quand vous êtes impliqué sur 3 buts directement et que vous avez détruit le jeu adverse à vous tout seul, pour moi, vous avez fait un match mais dantesque et je regrette.
Mais d'ailleurs, il est l'homme de la compétition. C'est le meilleur joueur.
Oui, c'est le meilleur joueur de la compétition, mais l'homme de la finale, c'est Désiré Doué.
Oui. Ça veut dire qu'on récompense aussi tout son travail tout au long de la
saison.
Abdel, vous vouliez dire.
Pour Ousmane Dembélé, le ressenti qu'on a eu des tribunes, c'est qu'il a fait un match au service du collectif. Il aurait pu, entre guillemets, penser à un éventuel ballon d'or. Donc,
mais pour moi, c'est un match ballon d'or quand même.
Reste un match ballon d'or dans le sens où il s'est mis vraiment au service de l'équipe. Il ne s'est pas dit je vais la jouer solo ou perso.
Match à la Rodri.
Mais c'est ça qui est marquant aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe-là, quand on la voit jouer, on sent que c'est un collectif qui est très très fort.
Abdel, est-ce qu'elle vous manque, vous, les stars qui étaient dans cette équipe? Parce que vous les avez parfois très bien accueillis. On se souvient de l'accueil de Neymar à l'époque. Vous les avez aussi parfois maltraités, parce que Messi, je crois qu'il en gardait un chien de sa chienne. Il n'allait pas vous le saluer souvent.
Ces stars, non, elles ne me manquent pas du tout. En tout cas, je parle pour moi, dans le sens. Alors oui, la victoire.
Ça a mis la lumière sur le Paris Saint-Germain dans le monde entier, quand même.
C'est une image, c'est une équipe à notre image. Enfin, je parle des supporters. Enfin, une équipe qui est proche de nous, en fait. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Il n'y a plus les grandes gueules, les caprices de stars, etc. C'est vraiment des joueurs qui... Il y a de l'humilité dans cette équipe. Et c'est ce qu'on voulait, quoi. aussi en tant
que. Avant, c'était une construction marketing. Ils empilaient les.
Oui, mais c'était aussi pour. Ils construisaient une image.
Non, mais quand vous parliez.
Quand Beckham vient et tout ça, ce n'était pas pour jouer.
Ce que j'appelle une construction marketing. Quand vous parliez à l'entraîneur de l'époque à chaque fois en off. Il vous disait, mais qu'est-ce que je fais de ces trois joueurs, moi, Neymar, Messi, Mbappé, qui va défendre, je les mets où, je les mets, si je mets machin à gauche, l'autre va faire la gueule, si je mets lui à droite, c'était un enfer en
puis
fait.
Il ne pouvait pas les sortir, ni rien.
Mais bien sûr, quand ils sortaient, c'était une affaire d'État. Pochettino, Tourelle et Galtier, je peux vous dire qu'en off, ils détestent cette formule-là. Mais tous les entraîneurs du monde ne supportent pas ça. Une, ça va, parce que...
Bah, regardez Ancelotti cette saison, finalement, à Madrid. Et on parle des Galactiques, fut un temps dans les années 2000. C'était pareil, c'était compliqué qu'il y ait une alchimie entre tous. Benjamin, vous parliez justement de ce groupe qui est si fort. Est-ce que c'est un groupe qui va dominer l'Europe? Alors, le Mondial des clubs, ils s'en foutent un peu, nous. Abdel, on va le croire.
Les supporters, oui, ils s'en foutent.
Mais c'est
la
première
joueurs,
épreuve,
général,
quand même.
Non.
Mais bon...
Bah, le problème aujourd'hui...
Parce que, évidemment, et c'est un peu normal, mais beaucoup de supporters et même certains joueurs de deuxième, bah non, mais maintenant, on va aller chercher la deuxième étoile et tout. Évidemment, oui, ça donne envie, ça fait rêver.
Pendant longtemps, on nous a dit les joueurs, ils quittent la France parce qu'ils ne sont pas capables de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, on sait que le club est capable de la gagner. Donc, déjà, t'as un argument avec toi.
Mais maintenant,
là, voilà. Politiquement, tu ne fais pas de trading. Économiquement, tu n'as pas besoin d'argent, donc tu peux les garder. Sportivement, je pense que sur les 6 mois que tu viens de faire,
tu
as progressé au moins
d'un
an et demi. Là, tu as vraiment progressé beaucoup, beaucoup sur les 6 derniers mois.
Ouais.
Donc, pour les joueurs, c'est quand même agréable de dévoluer dans un confort comme ça. Vas-y, je te laisse répondre. Vas-y.
Il était parti.
Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus dur va commencer pour Paris. Parce qu'effectivement, quand on gagne, comme ils ont gagné en pratiquant un football de qualité, avec la découverte qu'on a eue des joueurs qu'on connaissait un peu, mais on ne s'imaginait pas qu'ils auraient été à ce niveau-là. Aujourd'hui, Paris va être l'équipe à battre. Comme partout, quand il y a une Coupe du Monde, un Euro, l'équipe qui est championne en général, l'année qui suit, c'est un peu l'équipe que tout le monde regarde. Donc maintenant, c'est pour moi, la difficulté va être là maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce cap-là, garder ce rythme-là, garder ce niveau d'exigence et de performance? Parce que c'est vrai que l'entraîneur, il a beau être un très, très grand entraîneur, ça, on le renie absolument pas. Mais maintenant, collectivement, est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner?
Benjamin, ils ont un peu d'avance quand même. Je trouve que là, aujourd'hui, pour moi, le seul concurrent possible, c'est Barcelone. Mais Barcelone, s'ils ne changent pas leur défense... Ça n'en fera pas un concurrent du Paris Saint-Germain. Ils ont une attaque sans doute supérieure, mais on a bien vu qu'une équipe, ce n'était pas qu'une attaque.
Mais c'est vrai, Dominique, parce que derrière, il faut te dire qu'il y a aussi d'autres équipes qui vont se réveiller pour la saison prochaine.
Oui, mais il faut.
Il y aura City qui sera beaucoup mieux, je suis persuadé.
Il faut le temps, sans doute.
Il faut le temps que ça prenne la sauce quand même. Il faut le temps que les mecs s'intègrent. Il faut le temps que. Là, on dit que le Real va prendre des défenseurs. Peut-être
est-ce que c'est vrai qu'il faut du temps, mais est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'en un an, Paris aurait été à ce niveau-là jusqu'à aller gagner la Ligue des Champions?
Non, tu as raison, non.
Mais ils ont mal commencé même la campagne européenne.
Ils ont mal commencé la compétition et à la fin, ils ont été à un niveau stratosphérique.
Mais le Real, c'est un nouvel entraîneur. Là, lui, Luis Enrique, il va rester au moins pendant. Alors, City, c'est le même entraîneur, mais pareil, il va falloir qu'ils renouvellent leur effectif. Donc, je me dis que Paris a un petit coup d'avance qui fait qu'il peut la regagner dans 1 ou 2 ans.
Et peut-être aussi, Naïm, pardon, mais ça serait l'atout jeunesse, parce qu'on a vu ça avec l'équipe de France en 2018. Oui. Puis et ben après, en 2022, on est un peu moins jeune, quoi.
Oui, non, mais l'atout jeunesse, oui, mais après, des jeunes, il y en a dans plein de clubs. Moi, je pense que si le PSG veut avoir de l'avenir, construire un cycle, la priorité, c'est de garder Luis Enrique. Toutes les équipes qui ont eu un cycle...
C'est le cas, hein.
Oui, bien sûr, mais toutes les équipes, Liverpool, City avec Guardiola, le Real à l'époque de Zidane qui est resté. Si tu ne gardes pas ton entraîneur plusieurs années de suite, tu feras pas tic. Tu as des joueurs, ils sont jeunes. Alors, tu as Dembélé, il a 29, Kimpembe, Hernandez, Fabien Ruiz, ils sont à 28-29. Donc ça, on va dire que, mis à part Marquinhos, c'est les premiers où la question va se poser, mais tout le reste, c'est en dessous, c'est 25 et moins de 25. Tu as l'argent pour les garder, le sportif pour les garder, tu gagnes la Ligue des Champions, ils jouent bien, tu as ce qu'il faut, et en plus, tu as de la formation, Mayulu en est l'exemple. Mais tout ça, ça ne pourra pas se bâtir, se prolonger dans le temps si tu changes d'entraîneur. La clé pour moi, c'est de conserver Luis Enrique sur les prochaines saisons. Quelles que soient ses demandes.
Et Luis Campos et Luis Enrique sont là jusqu'en au moins 2027-2030. Donc là-dessus, moi, ma petite crainte, Annie, c'est qu'il était manager d'un groupe qui n'avait pas d'ego. puisqu'ils n'avaient rien gagné. Et là, maintenant, ils sont champions d'Europe. Donc maintenant, ils vont avoir un ego. Ils ont changé de statut. Depuis samedi soir, ce n'est plus les mêmes. Leur vie a changé. Tout le monde les reconnaît, tout le monde les adore. Désiré Doué, c'est devenu, nous, on le connaissait ici parce qu'on fait radio foot. Désiré Doué, la France entière le connaît.
Nouveau Mbappé, quoi.
La finale a fait 12 millions de gens devant la télé. Donc il vient.
23 millions au Brésil. Je vous le signale parce que c'est quand même. Il y a 200 millions d'habitants, c'est quand même intéressant. Hein. Vous aviez un Brésilien dans votre bus.
Effectivement. le type a trouvé un billet pour le match 48 heures avant le match.
Incroyable. Il venait de Recife en plus. C'était même pas une grande capitale.
C'est un local, entre guillemets. Et du coup, il allait à l'aéroport avec son sac à dos. Il leur a dit : je veux le premier vol pour Munich. Ça coûtait beaucoup trop cher. Et du coup, il est passé par Paris. Il est monté dans notre bus.
Allez, hop.
Il a atterri à Orly une heure avant le départ du bus. Vraiment, c'était.
Faut pas être en retard.
On l'a attendu. Mais
c'est un club très populaire, en fait, le Paris Saint-Germain au Brésil. Depuis longtemps, hein, parce qu'il y a une quinzaine d'années déjà, à part tous les Brésiliens qui ont joué, et notamment Ronaldinho. Et je peux vous dire que la nuit de la finale, j'ai reçu beaucoup de messages du Brésil, parce que tout le monde regardait le match. Alors, quand j'ai vu les chiffres, 23 millions, mais bon, ils aiment le foot, donc forcément, ils étaient obligés de regarder ça. Les amis, on va faire une petite pause et on va en parler de ces joueurs qui ont une nouvelle aura et qu'on reconnaît maintenant dans la rue. Mais pour l'instant, eh bien, un petit air de Brésil. Ça s'appelle Trinix Fit, Mariana Freus et c'est Vai Timbora. Vai Timbora, ça, on pourrait traduire ça par va-t'en. Trinix, Fit, Mariana Freus. Et c'est sur la playlist de RFI Musique. Et on continue à parler foot.
Liebe Fans hier im Adidasler Stadion, jetzt kommt nochmal eine größere Truppe. Und jetzt...
Marc-André Ter Stegen, zurückgekehrt nach langer Verletzung.
L'euphorie de la compétition européenne UEFA à peine retombée, donc ce sont les sélections nationales de la FIFA, hein, parce que là aussi il y a une petite concurrence, n'est-ce pas Dominique, qui reviennent sur le terrain. Et dès demain débute en Allemagne le Final Four. Alors on va appeler ça le tournoi final du dernier carré de cette Ligue des Nations. L'Allemagne jouera à Munich face au Portugal, alors que la France jouera contre l'Espagne. Et nous y reviendrons bien sûr. La nationale Mannschaft qui va rencontrer le Portugal sur la pelouse de la Bayer Arena. Vous avez laissé quelque chose défiler de la pelouse.
J'ai vu qu'elle était bien abîmée en tout cas.
J'ai quelques amis qui étaient en bas dans le parquage qui sont repartis avec des morceaux de pelouse.
Ouais. Et Marquinhos avec un bout de filet parce qu'on l'a tous vu devant les caméras. Bon, alors espérons qu'ils feront des miracles.
Ah, j'espère qu'ils ont trouvé un peu d'argent pour acheter des filets.
Pour eux-mêmes.
La pelouse, c'est plus compliqué en 3 jours.
Ben oui.
On leur enverra le jardin. Digne du PSG faire une
pelouse. Jonathan Calderwood.
Alors, honneur aux champions, on va commencer par le Portugal. Alors, Portugal-Saint-Germain, a tweeté Vitinha à la nuit du titre. Quatre joueurs sacrés champions et internationaux dans cette équipe. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, les trois sont titulaires, et Gonçalo Ramos qui joue un peu moins. C'est la, d'ailleurs la jeunesse portugaise triomphante parce qu'ils ont remporté l'Euro des moins de 17 ans.
C'est ça.
Une finale, 3-0, hein. C'est pas une manita, mais c'était quand même sévère. Avant, on va évoquer cette confrontation. Ces jeunes Portugais, comme tous ceux qui les ont précédés, ils ont fin de titre. Et notamment, on va entendre Vitinha, mais Vitinha, on l'avait entendu, c'était le 23 mars dernier, dans la foulée de leur qualification en demi-finale, après un quart de finale 1-0. À l'aller, mais un 5-2 au retour, un match de fou, et Vitinha avouait toute sa motivation.
Ce serait très important pour nous d'aller au bout. C'est pour cela que nous avons montré tant de volonté face au Danemark pour gagner et atteindre ce Final Four. Ce dernier match était le reflet de notre détermination. Oui, nous voulons vraiment gagner. Nous voulons offrir un titre au Portugal. Je pense que tout le monde souhaite cela, pas seulement la jeune génération, mais aussi les anciens. Si vous leur demandez, ils ont eux aussi très envie de gagner.
Les jeunes les plus expérimentés, évidemment, il y a une petite allusion, là, on va en parler, de Cristiano Ronaldo qui est toujours là, mais ces jeunes, c'est ce qui fait la force de cette nouvelle équipe portugaise.
Si on voit émaner de Rodrigo Moura, vous faites très certainement allusion au jeune de Porto de 18 ans qui est absolument fantastique, qui a été sélectionné.
Ces trois-là, João Neves, Vitinha.
Vitinha, il a 25 ans, il y va quand même depuis un petit moment. En sélection, Neves, il a 20 piges, c'est plus récent. Mais c'est vrai que le Portugal a toujours été un pays de formation avec des joueurs très techniques. Et en plus, les joueurs les utilisent beaucoup pour les vendre. Donc, ce n'est pas étonnant de retrouver beaucoup de jeunes en équipe du Portugal. Très tôt en sélection. Là, ce qui change depuis quelques temps, c'est que finalement, on va davantage compter sur eux puisque les joueurs expérimentés, les cadres, ceux qu'on retrouve dans les clubs importants en Europe, ne font pas des super saisons, en tout cas pour ceux qui sont dans le secteur offensif. Fernandez, Silva, vous prenez Jota, vous prenez les deux Milanais, João Félix et Leao.
Bernardo.
Bernardo, c'est des joueurs qui ont connu des saisons en galère pour tout un tas de raisons, qui ne sont peut-être pas en confiance, qui ont pour certains été blessés, je pense à Jota. Et on se dit, finalement, ces jeunes qui en plus tournent bien parce qu'ils ont beaucoup de talent, finalement, peut-être falloir s'appuyer sur eux, sur des Vitinha, sur des Mora, sur des Trincao, pour essayer justement de battre l'Allemagne. Voilà.
Benjamin, par ailleurs, l'équipe du Portugal, ça fait 5 rencontres internationales qu'elle ne remporte aucun match. Aucune victoire, c'est les Allemands à chaque fois face à l'Allemagne. C'est les Allemands qui les ont battus. Est-ce que là, il y a peut-être quelque chose de nouveau du côté de cette équipe?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a bien sûr la jeunesse, la jeunesse qui aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, a pris le pouvoir, mais il fallait que ça arrive à un moment donné. Parce que moi, je me rappelle encore de l'Euro dernier où le Portugal a énormément déçu. C'est une équipe qu'on attendait dans le dernier carré qui devait même peut-être aller jusqu'en finale. Mais moi, cette équipe, au-delà de son titre de 2016 où elle gagne ici contre la France, c'est cette génération-là, j'ai le sentiment qu'elle n'arrive pas à passer le cap, en fait. On a toujours l'impression, quand on va en compétition, dans les qualifications, ça se passe bien, tout va bien. Et une fois qu'on arrive dans la compétition en elle-même, il y a toujours quelque chose qui coince. Parfois, parce que Ronaldo, on estime qu'il est peut-être âgé. Est-ce qu'il doit continuer à jouer? Bruno Fernandes, on disait tout à l'heure, qui est moins bien. Ramos, qui ne joue pas forcément avec le Paris Saint-Germain. C'est beaucoup d'interrogations, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pas tourner la page et se dire qu'avec ces jeunesses-là, mais ces anciens-là, je pense qu'ils doivent encore être là parce qu'il faut les accompagner, les jeunes. À un certain moment, dans une compétition...
Vous voulez enlever Cristiano de l'équipe?
Non, moi, je ne veux pas l'enlever, attention.
Mais sinon, moi, oui.
Dominique, oui, mais sinon, les supporters de Ronaldo, ils vont se fâcher contre
moi.
On en a beaucoup.
Il y en a beaucoup qui nous écoutent.
Je ne veux pas commettre de crime de lèse-majesté, mais il a 40 ans. Ça n'a pas de sens, en fait. Je sais bien qu'il veut aller à la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Je sais bien que c'est une légende du football.
Il attend son fils.
On ne remet rien en cause.
Il a 15 ans.
On ne lui enlève rien. On dit simplement donc pour que les joueurs donc, qu'on a cités, par exemple Ramos qui a 22 ans, pour que ces joueurs-là ou Jota pour se développent, prennent confiance, aient des matchs avec leurs partenaires, la sélection c'est des automatismes très compliqués parce qu'on se voit 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année, donc c'est pas facile de développer des affinités. Et si on veut qu'il y ait une relève crédible, c'est-à-dire, l'Euro ils l'ont gagné il y a bientôt 10 ans et Cristiano Ronaldo il était déjà là, il a quitté la finale parce que Dimitri Payet lui a fait mal, mais c'était déjà il y a 10 ans, donc c'est bon, il a gagné l'Euro, c'est super, il peut venir encore en sélection, alors je sais bien
Le problème, c'est, Dominique, c'est qu'en face aussi, ceux qui sont là, ils font pas comme tu disais, ils font pas une grande saison.
En fait, et là, c'est même pas une histoire de sélection, ils sont tous, mais le fait, Dominique, c'est que si ces joueurs-là étaient performants quotidiennement en sélection, on pourrait se dire, d'accord, ouais. Cristiano, de côté, parce que tous ces joueurs-là sont bons. Le problème, c'est qu'il a raison, Benjamin, tous ces joueurs-là déçoivent en sélection, souvent, depuis longtemps, rappelle-toi la dernière Coupe du Monde, ils étaient là, oui, Cristiano, il est là, ça empêche Exactement. Bruno. Mais oui, mais il fait quoi, Bruno, en sélection aussi, tu vois? Donc, à un moment donné, moi, je veux
il
bien
lui
qu'on
mette. Il faut proposer un autre attaquant devant lui, Daniel.
Il y en a quelques-uns des attaquants au Portugal, quand même. Bruno ça marche pas plus. Hein.
Il faut qu'il y ait d'autres déplacements devant lui. Les déplacements de Cristiano Ronaldo, c'est un piqué, désormais. Mmh. Et encore une fois, je l'adore.
Mais il n'est plus titulaire, d'ailleurs, souvent, Dominique.
À l'Euro, j'ai trouvé qu'il était. Il jouait contre le Danemark.
Il jouait sur les quarts de finale. Là, sur les éliminatoires, il le fait souvent rentrer, mais un peu plus tard.
Le souci, c'est que moi, je pense que si. Alors, au-delà du fait que c'est une icône et que peut-être qu'il s'évite des polémiques à ne pas le prendre machin, je ne sais pas, hein, j'essaie de... Voilà. Si sportivement, il y avait un ou deux attaquants portugais performants qui marquent à chaque sélection, qui permettent à cette équipe de faire sortir progressivement Ronaldo, je pense qu'il l'aurait sorti. Le souci, c'est qu'on est quand même face à une génération qui, en termes de joueurs, ligne par ligne, est exceptionnelle. Milieu de terrain et attaque, il y a un vivier au Portugal depuis 5, 6 ans, 10 ans, qui est monstrueux. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, ils déçoivent tous les uns derrière les autres. João Félix en est la parfaite illustration.
Est-ce la faute du sélectionneur apparemment,
non,
les rumeurs...
Il y a eu plusieurs sélectionneurs.
Mais les rumeurs, depuis Fernando Santos, c'est resté très longtemps.
Il a bien tenu.
Oui, champion d'Europe. Et là, Roberto Martinez, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que...
Il est très critiqué.
Ouais, hein. Il ne va peut-être pas tenir jusqu'à
Après,
l'Euro.
Après, Annie, vous avez parlé des Parisiens pour commencer. Et donc, ils ont joué quand même samedi. Demain, je ne sais pas dans quel état ils vont arriver quand même. Ça fait 2 jours qu'ils font la fête. On leur demande de jouer contre l'Allemagne qui se propose depuis quelques temps. Je ne sais pas, lui, c'est l'heure d'être face à un casse-tête. Est-ce qu'il faut faire jouer Vitinha, par exemple? Est-ce qu'il faut faire jouer João Neves, Nuno Mendes, qui a eu mal à la hanche en finale, qui a été un peu touché? Le remplaçant arrière-gauche, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Donc, lui, il va vouloir gagner donc de mettre Mendes, mais Mendes, il n'est peut-être pas...
Il a un gros risque de blessure. Tavares. Sélectionneur, je crois qu'il l'a renvoyé, Tavares. Il a retiré Tavares de la liste, il me semble.
Benjamin, et justement les Allemands en face, parce que Nagelsmann, le jeune sélectionneur, lui aussi, il y a beaucoup d'absents aussi, lui, alors c'est beaucoup de blessés, notamment Musiala, il y a Rudiger aussi qui a été opéré, Kaya Wertz. Bon, et là Florian Wirtz, c'est déjà pas mal. Et cette équipe allemande, on a l'impression, ça fait une dizaine d'années qu'elle n'atteignait pas de tournoi, de demi-finale de tournoi majeur. En même temps, Nagelsmann, je ne sais pas si c'était pour évacuer tout de suite le stress, il a dit que s'il a gagné la Ligue des Nations, c'était un petit titre. Mais il a dit, bon, on ne dédaigne rien. Cette équipe d'Allemagne, elle est quand même très forte.
Non, mais l'Allemagne reste toujours une valeur sûre, hein, même si le football allemand, notamment sa sélection, traverse quand même, ça fait un sacré moment qu'on n'a pas vu la grande Allemagne. Hein, depuis
2016, la demi-finale contre la France à Marseille.
La Coupe du Monde 2014, je crois, c'est ça, non?
Ah bah, il la gagne.
Le
7-1.
Le 7-1 au Brésil.
Parce qu'il y a un sélectionneur aussi qui était resté longtemps, Joachim Löw, je crois, qui est resté longtemps. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Là, ils ont décidé de prendre Nagelsmann, qui est un très, très jeune entraîneur.
Les Allemands, c'est l'inverse des Portugais, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de stars dans l'équipe. Par contre, ils arrivent avec toute une jeunesse, des joueurs qui sont
Parce qu'ils ont des jeunes.
Angelo Stiller, sur lequel faut avoir un œil, un joueur Stuttgart.
Ils ont une vraie jeunesse. Hein.
Et puis le petit qui vient d'Offenheim, de Stuttgart, pardon, Waldemeid, qui a marqué 16 buts avec Stuttgart.
Waldemeid,
t'as Bischoff qui vient d'Offenheim. Enfin, là, il ramène toute une jeunesse. Ça marchera pas, hein, mais. Par rapport aux Portugais, où là, tu sens que l'effectif avec des anciens ronronnes, les Allemands, ils arrivent avec autre chose.
Le match, ça sera demain soir et nous vous en parlerons évidemment après-demain dans Radio Foot International. Moi, je voudrais qu'on applaudisse Abdel.
Il est
passé derrière le micro, alors que d'habitude, il les ouvre et il les ferme, les micros, quand il veut. Et puis, il est champion d'Europe. Voilà. Bravo, Abdel.
Martino se m'a dit à l'oreille qu'il l'avait fait pour lui. Hein.
Merci à tous et à demain.